L'église à Paris est en train de grandir, l'église en France est en train de grandir. Je vous ai déjà dit que d'après les statistiques du CNEF, on est 650 000 chrétiens évangéliques en France aujourd'hui. Donc c'est 1%. Alors on parlait du Niger où il y a 2 à 3%, bon, par rapport à la proportion, donc des nombres de personnes. Mais quel était le désir de Dieu exprimé par l'apôtre Paul pour l'église? Alors, Romains chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Les païens étaient les non-juifs, c'étaient les personnes qui ne faisaient pas partie donc du peuple hébreu. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, qui dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je désire vous voir. Chaque fois que l'apôtre Paul venait vers une congrégation, venait vers une église locale, il avait un désir profond de les voir. Il avait un désir profond aussi de communiquer quelques dons spirituels. Nous savons qu'il y a les dons spirituels qui sont en Corinthiens, chapitre 12. Aussi, il y a les dons spirituels naturels qui se trouvent en Romains, chapitre 12. Il y a d'autres dons qui se trouvent en 1 Pierre, chapitre 4. Mais toujours est-il, il fallait que les dons spirituels soient communiqués, parce que si les dons spirituels étaient communiqués, le corps allait être édifié. Si vous voyez en Corinthiens chapitre 12, il parle de ces dons, les 9 dons de l'esprit, les dons spirituels, afin que le corps soit édifié. Afin que le corps soit édifié. C'est-à-dire, si quelqu'un a le don de prophétie, c'est afin que le corps soit édifié. Le don de sagesse, afin que le corps soit édifié. Le don de miracle, afin que le corps soit édifié. Le don de foi, le don de discernement des esprits. Le don des langues, avec l'interprétation des langues. Donc, c'est pas une traduction directe, mais c'est une interprétation spirituelle sur les langues qui ont été exprimées, dans le but que le corps soit édifié. Donc, lui, il voulait communiquer un don spirituel, parce que s'il communiquait un don spirituel, il savait que l'Église allait bien se tenir. Il désirait de les voir être affermis. On pense à ce verset dans le psaume 90, verset 17, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et dans ce psaume, on demande à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours, à rechercher donc de tout cœur la sagesse de Dieu, afin qu'il puisse affermir l'ouvrage de nos mains. Si nous sommes affermis, nous allons pouvoir aussi accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a préparés. Je désire aussi votre encouragement. Il disait, je veux vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Il cherchait donc à les encourager, et il cherchait aussi à être encouragé au milieu d'eux grâce à leur foi commune. Il avait un désir profond que Christ soit formé en eux. L'apôtre Paul vivait une souffrance par rapport à l'Église. Si on voit 2 Corinthiens, si vous lisez donc les 13 chapitres en 2 Corinthiens, vous verrez qu'il avait une souffrance attachée au ministère. Parce qu'il disait, je veux que Christ soit formé en vous. Je veux que vous compreniez, pas seulement que vous entendiez, mais que vous compreniez quel est le but de l'appel de Dieu, la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 et verset 10, afin de le connaître, la puissance de sa résurrection, la puissance qui émane de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Parce que je veux être saisi par Christ, je veux le saisir, je veux donc remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle était cette vocation céleste? C'était cette relation, c'était cette communion qu'il avait. C'était pas seulement basé par rapport à son appel d'apôtre, son appel de pasteur, son appel d'évangéliste, prophète, enseignant. Je crois que l'apôtre Paul avait les cinq. C'est rare qu'il y ait des personnes qui ont vraiment donc les dons ministères, donc d'une manière à pouvoir avoir une influence sur l'ensemble donc de l'Église. La France a besoin donc des hommes et des femmes, voilà, qui aient une influence sur l'ensemble de l'Église. C'est pas seulement une Église locale qui doit aller bien, qui doit fonctionner, mais c'est l'ensemble de l'Église. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on entend dire qu'il y a des églises qui sont en souffrance, nous on ne peut pas se réjouir parce qu'on veut que l'Église soit en bonne santé, que l'Église soit au même niveau. Alors, qu'est-ce qu'il désirait pour l'Église? Qu'il y ait une vraie communion vécue. Une vraie communion. La Bible dit en Jean chapitre 1 que si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a 3 jours, le même jour que j'ai vu Martin, je suis allé voir Jean-Michel. Jean-Michel, c'était un garçon qu'on a connu il y a une douzaine d'années, qui était donc lié par des démons, qui était vraiment donc sous l'emprise démoniaque. Et on avait prié pour lui, on avait passé du temps à prier pour lui, et Dieu avait vraiment fait une œuvre dans sa vie et dans son cœur. 12 ans après, je reçois un coup de fil. Marc, tu te rappelles de Jean-Michel? Ah oui, mais bon, je pensais qu'il était retourné en Chine, qu'il s'était marié là-bas, qu'il vivait là-bas. Ah non, il est de retour ici. Et donc, figure-toi qu'il n'a pas continué dans la communion avec Dieu. Et les démons sont revenus, après 12 ans. La Bible dit que quand quelqu'un est possédé, et moi je vais dire, je ne crois pas à la possession des chrétiens, hein, moi, je parle des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui étaient sous l'emprise du diable, qui avaient besoin d'être délivrées. Si la personne est délivrée, si la personne est complètement libre, il faut qu'il remplisse la maison avec la parole de Dieu. Il faut qu'il remplisse la maison avec la prière. Il faut qu'il remplisse la maison avec ce qui est la communion. Et apparemment, donc, il est parti en Chine. Et donc, la première chose, la famille l'a emmené dans des temples bouddhistes, une fois qu'il avait été libéré ici, etc. Et alors, ça fait 3 semaines qu'il était complètement inconscient. Voilà, il ne parlait plus, il ne pouvait pas communiquer. Et on est allé le voir, donc, avec Yili, il y a 2 jours, 3 jours. Et il était lucide, et on a pu parler avec lui. Il m'a expliqué comment il s'est éloigné de Dieu. Il m'a expliqué comment il ne s'est pas rempli de Dieu. Il m'a expliqué comment il savait qu'il ne faisait pas les choses correctement. Et maintenant, il est encore sous l'emprise des démons. La Bible dit que si la maison est propre et que rien n'est fait pour remplir la maison, qu'un démon peut revenir avec 7 autres démons et la situation devient 7 fois pire. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, moi, des fois, quand je devais prier pour des personnes, il fallait qu'ils comprennent bien que si on priait, il fallait qu'ils se remplissent de Dieu. Sinon, on allait leur rendre pas un service. Parce que, pourquoi? Parce que s'ils ne se remplissaient pas de Dieu, s'il n'y avait pas le suivi par derrière, on s'est sûr et certain que l'ennemi allait sentir qu'il avait des droits. Et donc, en parlant avec lui, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu crois que le diable a des droits sur toi? Il m'a expliqué sur certains livres qu'il a lus, et certainement, ce n'étaient pas des livres positifs, c'était des livres occultes, des livres sataniques. Mais par curiosité, « Ah non, je voulais connaître les religions du monde. » J'ai dit, mais attends, Dieu t'a libéré, tu es resté libre pendant plusieurs années, et tout d'un coup, tu es revenu donc à cette intrigue que tu avais dans le passé. Alors, bon, on va croire que le Seigneur va commencer à le reconstruire. Il va commencer à lire 1 Jean, les 5 chapitres, tous les jours. Je vais aller le voir cette semaine. Mais je sens vraiment que c'était vraiment une visitation de Dieu qu'il a vécu avec la prière des uns et des autres. Mais là, subitement, il est sorti de son état Il n'était pas dans le commun, mais dans un état secondaire. Et tout d'un coup, il a pu communiquer et il a pu vraiment exprimer le désir profond de son cœur. Mais quand je suis venu le voir, il était comme ça. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te regarder. Je dis, mais attends. Et j'ai compris qu'il n'était pas dans la communion. Il n'était pas dans la lumière. Petit à petit, il a commencé à baisser ses mains. Petit à petit, il a commencé à ouvrir ses yeux. Petit, il a commencé à regarder. Mais au départ, il était dans des ténèbres. Et alors, quand on est dans une communion les uns avec les autres, il n'y a pas de ténèbres. Quand on est dans une communion avec Dieu, il n'y a pas de ténèbres. On est en communion les uns avec les autres. On est là pour s'encourager les uns les autres. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes commandements. Psaume 119, 63. Je n'ai pas relancé la mémorisation cette année, hein, parce que l'année dernière, on a mal démarré. Mais on reviendra, hein, le psaume 119 nous attend. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes commandements. La communion vécue de ceux qui te craignent. Es-tu sûr que les personnes par lesquelles tu es entouré craignent le Seigneur? Vive vraiment pour donc réjouir le cœur de Dieu. Vive vraiment dans une attitude de communion, de lumière avec Christ. C'est très très flagrant. Comme ça. Je ne peux pas voir. Et petit à petit, il a commencé à comprendre que Dieu est le Dieu d'une deuxième chance, une troisième chance. Moi, je crois que Jean-Michel sera libre. Mais là maintenant, il est en train de s'ouvrir à la parole de Dieu, s'exposer à la parole de Dieu. La puissance de Dieu est là, est évidente, mais il faut qu'il commence à envisager qu'est-ce que ça veut dire de se remplir de Dieu et de rester dans une communion. Notre communion est avec lui, la Bible dit en 1 Jean chapitre 3. C'est avec lui notre communion. Si nous sommes en communion avec lui, nous allons être en communion les uns avec les autres. Il avait une communion vécue. Colossiens 3, mais par-dessus toutes ces choses, verset 14, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous connaissez ce passage, Colossiens chapitre 3, verset 12, quand il dit, soyez pleins de miséricorde, d'entrailles, de bonté, de bienveillance les uns envers les autres. Et alors, s'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Et ensuite, il dit, revêtez-vous, soyez dans une communion vécue. Cherchons à être en communion les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on est parfait, mais c'est parce qu'on est conscient que le sang de Jésus est en train de nous purifier, de nous transformer. Voilà. Et quand la conviction du Saint-Esprit vient, vous savez, le diable vient pour nous condamner, pour nous accuser. Mais la conviction du Saint-Esprit nous amène à la repentance. La conviction du Saint-Esprit, conviction profonde dans notre cœur, qu'il y a quelque chose qui fait pâlir la lumière de Christ, qui fait pâlir donc le soleil de justice à notre égard, alors le Saint-Esprit nous montre, peut-être tu t'es écarté un peu, peut-être toi tu sais bien dans quel domaine tu t'es laissé avoir, dans quel domaine tu t'es affaibli, alors reviens, afin que tu sois en communion avec tes frères et sœurs. Est-ce que nous vivons une communion directe, une communion authentique, les uns avec les autres? Nous le cherchons. Nous cherchons à avoir cette communion. Mais si nous marchons dans les ténèbres, on ne peut pas être dans la lumière. C'est la lumière qui fait dissiper les ténèbres. Mais si on le permet, les ténèbres vont avoir le dessus, sur notre petit coin, hein, de lumière. Alors, des dons reçus. Sommes-nous conscients du non-nouveau que nous avons reçu de la part de Dieu? Sommes-nous conscients du fait que avant on était abandonnés, aujourd'hui ta terre aura un non-nouveau. Tu auras la terre, une épouse, une fiancée. Tu n'es plus délaissé, tu n'es plus abandonné. Un non-nouveau, un nom qui a été donc inscrit dans le livre des cieux. Mais aussi le nom qui est inscrit dans le livre de vie. Quand nous venons à Christ, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que nous nous identifions avec Dieu. C'est pour cela que tout à l'heure, nous allons avoir un moment de jeûne et prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Pourquoi allons-nous passer ce temps dans le jeûne de la prière? Parce qu'on a besoin d'être visité par Dieu. Des temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu. Et notre pays a besoin d'être guéri. Et le monde a besoin de voir que l'Église se lève. Ceux qui ont un cœur nouveau, un nom nouveau, un esprit nouveau. Des dons reçus. Je veux vous communiquer des dons, il disait. Je veux que vous soyez habilités, que vous soyez capables, que vous soyez prêts, et que vous ayez les outils dans les mains pour pouvoir édifier le corps. Si le corps est édifié, il aura une croissance. Il est dit en Éphésiens chapitre 4, verset donc 12, 13. Il dit que Dieu a donné les cinq ministères, dont pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour que le corps soit édifié. Donc, souvent on pense, bon, le ministère, c'est pour le pasteur, des responsables, des personnes qui ont un appel particulier. La Bible dit que tous les saints sont en voie de perfectionnement. Tous. Tous les saints. En vue de l'œuvre du ministère. Pour que le corps soit édifié. Les dons reçus. J'aimerais que vous vous concentriez cette année en disant, Seigneur, quels sont les assortissements des dons nécessaires au sein de notre église locale pour pouvoir voir ce corps être édifié. Dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la douceur, mais Seigneur, nous voulons voir ce corps édifié. Des dons particuliers. Timothée a reçu des dons particuliers lorsqu'on a imposé les mains lors de son ordination, lors de son appel, de sa consécration. Il a reçu des dons particuliers. Rappelez-vous donc en Actes chapitre 13, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai préparés. Alors donc Dieu a révélé aux autorités spirituelles l'œuvre pour laquelle Dieu avait préparé Saul et Barnabas. Il avait quelque chose de précis qui leur a révélé. Alors Dieu va parler te concernant ce que le Seigneur a préparé dans ton cœur et les dons qu'il t'a donnés, les talents qu'il t'a donnés. Et ces talents sont complètement sous l'autel des sacrifices. Rappelez-vous, si on met des choses sur l'autel des sacrifices, le feu descend et il consume tout ce qu'il y a de la chair. Et tout ce qui monte, c'est une odeur agréable devant l'Éternel. C'est donc de l'encens qui montait. Mais une fois que le feu était passé, on n'aime pas le feu. Mais c'est au travers le feu que nous sommes préparés afin de pouvoir servir, afin de pouvoir avoir une influence, être la bonne odeur de Christ. Une fois qu'on passe par ce temps de purification, de préparation, des dons particuliers. Être affermi nous parle d'une encre. Une encre solide, une encre sûre. Le psaume 112, nous parle justement de cette sécurité que nous avons. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir, un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour des hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Être affermi. Romains 16 et verset 25. Vous savez, Romains 16, c'est le chapitre qui parle des gens inspirés par le Saint-Esprit qui ont été mentionnés. C'était des membres de l'Église, c'était des personnes qui avaient eu un impact sur la vie de Paul. Mais le verset 25 nous dit, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Une encre solide. Jude, c'est le livre juste avant l'Apocalypse, après 3 Jean, et le verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors il ne dit pas édifie toi-même, édifiant vous-même. Ok? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est cette miséricorde? C'est le retour de Jésus, c'est le jour quand on sera face à face avec lui. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Affermi en lui. Prions par le Saint-Esprit. Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Un encouragement. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que l'apôtre Paul dit pour s'encourager mutuellement. On va s'encourager mutuellement. Nous sommes dans un monde dans lequel, à une allure incroyable, il y a des pasteurs qui perdent pied et qui s'en vont. Aux États-Unis, actuellement, il y a 1700 églises qui se ferment par semaine. Imaginez. Imaginez, il y a eu une rafale de suicides des pasteurs de jeunesse, la déprime dans le ministère. 35 millions de personnes ont abandonné les églises dans les 3 dernières années. La Bible dit que l'amour de plusieurs va se refroidir. On est dans un moment dans lequel on cherche à s'encourager et à être encouragés les uns par les autres. Il y a des hommes de grande renommée qui abandonnent la foi publiquement, qui ont écrit des livres, qui ont vendu des millions de livres, des millions de CD, etc. Et aujourd'hui, ils disent, je ne crois plus. Et les gens sont un peu déboussolés. Attends. Ça fait des années que je suivais. Donc, voilà ce qu'il enseignait dans son livre. Il aimait le Seigneur, il aimait sa femme et tout. Il y a un particulier qui a écrit donc un livre par rapport à la volonté de Dieu dans les relations donc d'un couple, dans les relations des personnes qui aspirent à se marier. Et alors, il disait, mais il était convaincu que si on servait Dieu de tout notre cœur, si on était complètement engagé avec sa volonté, le jour viendrait quand Dieu va nous montrer avec qui on va se marier, etc. Et alors, il a influencé la mentalité de beaucoup, beaucoup, de millions de personnes. Et tout d'un coup, un jour, il annonce, je ne suis plus croyant. Il quitte sa femme. Et dans les 3 jours, il va dans un grand défilé, Pride. Il demande pardon, donc aux homosexuels, en disant, je vous ai mal jugé, etc. Et je crois qu'il a fini là-dedans. Mais alors, ça a été un choc. Vous savez, sur les réseaux sociaux, sur les téléviseurs chrétiens, etc., toute la programmation. Mais les gens étaient choqués. À cause de l'iniquité, la Bible dit, l'amour de plusieurs va se refroidir. À cause du fait qu'on banalise l'iniquité, qu'on banalise le péché. Ah non, mais c'est pas si grave que ça. Bon, c'est pas un problème. Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Et à cause de l'iniquité, à cause de la banalisation du péché, à cause de cette attitude de lassitude, l'amour de plusieurs se refroidira. Et bien sûr, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause de tout ça, on est mis au courant de ces choses. C'est-à-dire, on le sait davantage qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, bon, quand il y avait quelque chose comme ça, bon, personne n'était au courant. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et alors, quand on voit des personnes qui ont aimé le Seigneur, qui ont marché avec lui, et tout d'un coup, ils savent qu'ils vont influencer des milliers de personnes dans un autre sens. Donc, l'encouragement mutuel, hein, par la foi qui nous est commune. Galates chapitre 5, 5 à 6. Galates 5, 5 à 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous savez, en Galates chapitre 6, il dit au verset 9, « Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et nous ne nous relâcherons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Moi, je connais des personnes qui sont très gentilles avec le monde extérieur. Je suis connu dans les années de ministère. Il y avait même un homme missionnaire qui était venu des États-Unis dans les années donc 88, 89, dont personne ne se rappellera de lui. Alors, il venait et voilà, je voyais que des fois, il ne venait pas au culte. Il était missionnaire, il était censé travailler avec nous. Et donc après deux, trois cultes, absent, je lui dis, mais où est-ce que tu es? Mais je suis en train d'évangéliser dans la rue. Mais pas pendant le culte quand même. Il faut que tu sois là avec les frères. Il m'a dit, Marc, je n'aime pas les frères. Et il me dit, je vais sortir pour que les gens se convertissent et après je te les confie. Mais après moi je suis dans la rue. Je dis, mais il y a un problème là. Tu n'aimes pas les frères. C'était triste, hein? Moi j'avais des larmes aux yeux. J'essaie de le convaincre. Ah non, les brebis là, les brebis qui étaient égarés, quand ils viennent à Christ, ils sont tous déconcertés, dans le désordre. Oui, ils sont comme des brebis égarés, alors quand ils viennent dans le Seigneur, c'est pas évident les premiers mois de leur conversion. Moi, je n'aime pas tout ça. Je suis évangéliste, mais pas pasteur. J'ai dit oui, mais quand même, il faut aimer les frères. La foi qui nous est commune nous pousse à faire du bien à ceux de la maison de la foi. À qui as-tu fait du bien cette semaine? Vers qui est-ce que tu t'es tourné pour faire du bien par rapport à tes frères et sœurs dans l'église locale dans laquelle nous sommes? Comment pouvons-nous nous encourager les uns les autres? Par des paroles, par un texto, par un appel. On disait hier avec les frères que les textos, ça devient virtuel aussi. Il vaut mieux un appel, voilà. Je t'appelle, je parle avec toi. C'est pas du virtuel, c'est du réel. Et voilà, c'est formidable. La foi qui nous est commune. 1 Jean chapitre 5. Nous sommes tous nourris par la même parole, par le même amour de Dieu. Mais 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. On prend son joug sur nous, son joug est léger, son fardeau est facile. Les commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Quand j'étais à l'école biblique, il y a 46 ans, ça fait longtemps, il y avait un garçon dans l'église, dans l'école. C'était un garçon qui était très très bien portant. Parce qu'il aimait manger que des chocolats, que des pains, etc. Il était toujours en train de se gaver. Et un jour, pendant un temps de jeûne et prière, je vous ai suggéré qu'on va avoir deux moments de jeûne et prière cette année, dans lequel on va prier et jeûner pendant deux, trois jours. Et, bon, à l'époque, c'était jour et nuit. C'était jour et nuit. Et alors, moi, je choisissais, donc, entre minuit et 6 heures. Qu'est-ce que j'aurais fait? Dormir. Donc, voilà. Je choisissais ce créneau-là. Et on se rendait, donc, dans le sous-sol de l'église, et on était nombreux. Il y avait toute l'église qui participait et 300, 400 étudiants de l'école biblique aussi. Et je me rappelle une fois, à la fin de ces 3 jours de victoire, on était tous dans la joie, dans l'euphorie et tout. Alors, voilà, donc il y a quelqu'un qui nous a exhorté, voilà, allez donner une parole d'encouragement à vos frères, à vos sœurs autour de vous. Et bon, je me rappelle, je suis allé vers Michael et apparemment, je lui ai dit, je t'aime jusqu'à la mort. J'étais zélé, quoi. J'étais zélé. Je t'aime jusqu'à la mort. C'était pas quelqu'un aimable. C'était pas quelqu'un qui cherchait à se faire aimer non plus. Il était difficile. Et donc, quelques mois après, il m'appelle, il me dit, Marc, tu m'as dit quelque chose la dernière fois, à la fin du jeûne et prière, je veux savoir si c'était vrai. Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Et je suis allé chez lui. Mais tu sais, je suis à l'école biblique, mais je suis loin de Dieu. Et je vais me suicider. J'ai déjà le projet, j'ai déjà parlé avec mes parents. Voilà. C'est quelqu'un qui était très, très mal en point. Et donc, voilà. Il me dit, est-ce que tu voulais vraiment dire vrai par rapport à ce que tu m'as dit? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu m'aimais jusqu'à la mort? Alors, j'étais chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui avait des chiens, des chats, des petits reptiles. C'est quelqu'un qui avait des animaux chez lui. Ça sentait comme un zoo. C'était le désordre total. C'était vraiment le bazar total. Et j'ai regardé, je me suis dit, Seigneur, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin d'ordre. Donc, on l'encourageait à aller visiter un couple de l'école biblique, qu'il parle pendant 2-3 jours. Et 4 ou 5, on s'est mis dans son appartement et on a nettoyé son appartement. Et on a jeté des choses, et on a jeté des sacs, des poubelles, des choses. Et on a ouvert un des étagères et tous les chocolats sont tombés sur nous. On voyait qu'il avait vraiment un trésor là. Et 2-3 jours après, la maison était propre. C'est pas gloire à nous, c'est gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu qui met ça dans le cœur. Et il revient, et il n'en revenait pas. Et il a capitulé devant Dieu. Il a compris que l'amour peut être authentique. Et aujourd'hui, il est toujours vivant, il a 65 ans. Je l'ai de temps à autre au téléphone. Il a servi le Seigneur en tant que pasteur pendant un temps. Actuellement, il est malade, donc il a dû arrêter. Mais je me rappelle. Je lui ai dit, mais non, mais je taquinais quand j'ai dit ça. Pour lui, c'était de l'authentisme qu'il cherchait. Alors, un encouragement mutuel. Comment est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Déjà, quand on se parle, selon Malachie chapitre 3, l'Éternel entend ceux qui se disent, ceux qui craignent l'Éternel. Il est attentif à ceux qui se disent et il écrit dans son livre des souvenirs. Est-ce que nos conversations en valent la peine d'être écrites dans son livre des souvenirs? Chaque fois que je vois mon frère, que je vois ma sœur, qu'il ait une parole qui va encourager, qui va donc édifier, qui va construire un encouragement mutuel. Tout le monde a besoin d'encouragement. L'apôtre Paul avait besoin d'encouragement. L'Église avait besoin d'encouragement. Hébreux chapitre 10, et je vais terminer. Quand on se rassemble, quand on vient ici dans ce lieu de culte, si tu sens dans ton cœur que c'est ce lieu de culte dans lequel Dieu t'a placé, mais il faut que tu comprennes quelles sont tes responsabilités. Il y a un sens de responsabilité à avoir. Je sais que les uns et les autres, lorsqu'on arrive dans une église locale, on est brisé, on est vraiment, on a les bras cassés. Mais le moment vient quand le Seigneur te dit, mais lève-toi, réveille-toi, sois fortifié. Et on prend le temps de voir dans cette guérison, s'accomplir. Parce que chaque fois qu'on se rassemble ici, on doit chercher à vivre un encouragement mutuel. Si on vit l'encouragement mutuel, on aura la force lorsqu'on sera sur les terres de combat, sur les champs vers lesquels Dieu nous envoie. Hébreux chapitre 10, ainsi donc frères, verset 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison des dieux, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, nous inciter, nous provoquer à l'amour, à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que ce lieu soit un lieu d'encouragement, que ce lieu soit un lieu dans lequel nous avons la confiance de nous approcher avec un cœur sincère. Prions. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Il y a tellement de choses dites sous l'année 2020, tellement donc des phrases dites par rapport à l'année 2020. Seigneur, mais il ne faut pas se concentrer sur le fait que c'est une nouvelle année, une nouvelle décennie. Voilà, on est à 30 kilomètres de l'année 2050, etc. Seigneur, nous cherchons à ce que chaque jour de notre vie, et encore l'année 2021 et 2022, et le temps que tu nous prêtes, nous cherchons, Seigneur, à ce que l'Église se lève, à ce que l'Église, Seigneur, se réveille. Réveille-toi qui dors, car Christ t'éclairera. Ne sois pas insensible à comprendre la volonté de Dieu, mais comprends la volonté de Dieu et l'accomplis-la. C'est tellement, tellement important pour nous de comprendre que le désir de Dieu pour l'Église, c'est qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on ait les dons nécessaires pour accomplir ton œuvre. Qu'on ait, Seigneur oh Dieu, l'onction nécessaire pour accomplir ton œuvre, car il est dit que l'Esprit de l'Éternel est sur nous et nous a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il nous a oint pour déclarer à l'aveugle qu'il peut être guéri. Il nous a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous a oint pour annoncer une année de grâce, une année de jubilé, une année de triomphe. Il nous a oint pour donc aider à enlever l'esprit abattu et le remplacer par un vêtement de louange. Il nous a oint pour être une plantation de l'Éternel. D'un arbre que nous sommes tous potentiellement, Seigneur, une forêt. Nous sommes tous potentiellement d'un oranger. Seigneur, nous sommes une forêt d'orangers. Sur chacun de nous, Seigneur, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Car nous méditons ta parole, car nous sommes, Seigneur, engagés avec la croix, engagés avec toi. Si nous te demandons, Seigneur, que vraiment tu viennes visiter nos cœurs et qu'on se sente, Seigneur, faire partie de quelque chose de précieux, quelque chose, Seigneur, de ton plan précieux. Seigneur, si on se sent parti, alors on va comprendre quelles sont nos responsabilités. Comment nous pouvons, Seigneur, nous avons des devoirs et des responsabilités aussi. Seigneur, qu'en tant que membres du corps, nous puissions chercher, encourager autour de nous. Nous puissions chercher, Seigneur, à affermir. Nous puissions chercher même à communiquer des dons spirituels. Nous puissions chercher, Seigneur, à encourager les uns et les autres à vivre des temps de rafraîchissement dans ta présence. Viens, visite-nous, Seigneur. Fortifie celui qui a les genoux affaiblis, les mains languissantes. Relève-le, Seigneur, relève-la. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Visite chaque foyer, visite chaque individu, chaque personne. Seigneur, manifeste ta gloire et que dans cette année, une année de moisson, nous avons déjà commencé à voir la moisson, Seigneur, cette semaine. Une année de moisson, Seigneur. Nous sommes des moissonneurs et nous voulons, Seigneur, être fidèles à ton appel en tant que moissonneur, en tant qu'ouvrier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi. Convoque notre esprit, Seigneur. Appelle-nous, Seigneur. Appelle-nous, Seigneur, à chercher ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'on puisse, Seigneur, comme il est dit en Corinthiens chapitre 12 et 14, que puisse s'exhorter les uns les autres par des psaumes, par des cantiques, par des paroles, par des dons, Seigneur, par des exhortations, qu'on puisse vraiment tous vivre d'une manière authentique, Seigneur, la vie de l'Église, selon ton cœur, selon ton désir. Au nom de Jésus. Amen.